Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons été des mauvaises élèves. Hein, je tiens à m'excuser auprès des organisateurs de ces deux journées. Voilà, donc nous n'avons pas rempli, comme on nous a demandé, le titre et puis le petit résumé. Voilà, donc nous avons inauguré une exposition il n'y a pas très très longtemps et puis on est pas mal sollicité pour des choses diverses et variées, mais on est très contente, bien sûr, d'être là ce matin avec vous. Voilà, donc je suis Sylvie Vincent, responsable de la Maison Bergès, musée de la Houille Blanche, et puis Frédérique Virieux, qui est à mes côtés, qui est ma collaboratrice et qui est chargée des publics et des collections. Donc on va vous parler de cette Maison Bergès, hein, qui est à Villars-Bonneau, de ce musée, en deux temps. Donc je veux simplement resituer ce musée. Ce musée, c'est le petit dernier des musées départementaux du Conseil Général. Conseil Général qui a une politique culturelle affirmée en matière d'études, d'inventaire du patrimoine, mais aussi donc d'aide des communes en matière de valorisation, etc. C'est aussi une direction qui a avec 10 musées départementaux, et cette Maison Bergès, musée de la Houille Blanche, est le petit dernier, qui a été inauguré en juin 2011. Voilà. Donc une communication en deux temps. Frédérique va vous parler de la genèse longue et assez laborieuse de ce projet, et puis je conclurai par les perspectives de développement qui sont aujourd'hui à l'étude. Voilà, merci.
Je vais vous présenter les transformations du musée à travers son évolution historique et ses changements d'objectifs au cours du temps, qui se retrouvent aussi donc dans l'enrichissement et la diversification des collections. Donc, ce musée est un musée lié à un site, celui de Lançay, où Aristide Bergès, originaire des Pyrénées, vient implanter en 1869 une usine de fabrication de pâte à papier qui va rapidement compléter par une unité de papeterie. Donc Aristide Bergès, c'est un ingénieur qui dépose de nombreux brevets, ce qui contribue à ce que dans notre fonds, on ait un important fonds documentaire sur les brevets. Et c'est également un industriel papetier qui va utiliser l'énergie de l'eau des montagnes pour faire fonctionner ses machines. Donc dans un premier temps, l'énergie hydromécanique. Et très vite, il va coupler à ses turbines des dynamos pour l'éclairage, donc produire de l'hydroélectricité. C'est aussi quelqu'un qui sait très bien communiquer, qui écrit plusieurs textes intéressants, en particulier un sur l'énergie de l'eau, qui va baptiser cette énergie la houille blanche, c'est un thème qui va faire fortune par la suite, d'autant que les artistes amis de la famille Bergès vont représenter cette houille blanche sous les traits d'un personnage féminin. Et donc, après le décès d'Aristide Bergès en 1904, ses enfants vont transformer rapidement la maison familiale de Lançay en un premier lieu dédié à la mémoire de leur père et de son œuvre, tant hydraulique que papetière. Ils vont conserver les objets quotidiens qui lui appartenaient. Et ils vont également embaucher une secrétaire, Fernande Meunier, qui va être chargée de classer et de conserver l'ensemble des archives, que ce soit celles de l'entreprise ou celles de caractère plus privé. Donc ce que vous voyez sur la photo à votre gauche, à ma droite, tout en haut, donc c'est une partie du fonds d'archives classé par Fernande qui nous a servi pour élaborer le musée d'aujourd'hui. Et donc, Fernande Meunier va habiter assez rapidement, probablement dans les années 1930, dans la maison Bergès. Et donc, entretenir cette maison où les enfants d'Aristide ne viennent qu'à de rares occasions, mais qu'ils ont pris soin de léguer à la papeterie pour éviter les problèmes de succession. Les enfants Bergès transforment cette maison en un premier musée hagiographique et s'entourent de personnes dévouées à, entre guillemets, à cette cause, comme les directeurs de la papeterie ou des historiens comme Gabriel Anoto, par exemple. Et épaulés par ces personnes, ils veillent à faire connaître les travaux de leur père par des publications. En passant des commandes à des artistes, le médaillon que vous voyez là d'Aristide Bergès, c'est une commande passée par Marguerite, sa fille, donc auprès d'un artiste local. Et la grande statue de la houille blanche qui est au centre du hall, là, elle est installée en 1912 à la demande des enfants Bergès dans cette maison qui devient un premier lieu de mémoire. Ces enfants Bergès participer aussi à des expositions et en particulier à l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme qui se tient en 1925 à Grenoble. Et pour l'occasion, ils présentent des archives, des photographies, du matériel hydraulique, la maquette de la vallée du Grésivaudan qu'avait fait faire Aristide Bergès pour l'exposition universelle de 1889 qui se déroulait à Paris pour présenter ses installations. Vous la voyez sur la photographie qui vous montre l'intérieur du bâtiment. Et donc ils vont également réunir des objets d'art dans ce pavillon des papeteries de France qui se trouve juste à côté du palais de la houille blanche où il y a également un stand où Bergès est présent. Et à l'issue de cette exposition, les enfants Bergès, bien conscients qu'il faut garder ce patrimoine, en fait rapatrient tout ça à Lancey et complètent la maison musée par en aménageant une autre partie, donc dans les dépendances, dont vous voyez ici en haut l'intérieur de ce musée qui complète la maison et l'extérieur. Et donc jusqu'au décès de Fernande Meunier dans les années 70, le musée reste à peu près le même. En 1980, une association prend le relais, l'association du musée de la houille blanche et de ses industries, dont l'objet est de créer un écomusée de la houille blanche sur le site de Lancey et un centre scientifique et technique. Un des objectifs de l'association est de traiter de l'histoire des techniques liées à l'eau, à la houille blanche, à l'hydroélectricité, mais aussi à la papeterie. Et à ce moment-là, l'association fait entrer dans les collections du matériel de papeterie, du matériel électrique et du matériel hydraulique, dont vous avez quelques objets sur la diapo. Finalement, un musée voit le jour en 1994, avec le soutien, entre autres, du musée dauphinois. Je dis entre autres parce qu'il y avait d'autres soutiens associatifs aussi. Et donc ce musée se compose d'une salle liée plutôt à l'histoire des papeteries Bergès et une autre plus qui montre la technique de la houille blanche et ses répercussions sur la région de Grenoble. Et dans ce musée, la figure d'Aristide Bergès devient moins centrale. En 2000, le Conseil général de l'Isère achète la maison patronale, les dépendances où se trouve le musée de 94, le parc et l'ancien laboratoire des papeteries qui était encore utilisé à ce moment-là. Un nouveau projet naît avec l'idée de sauvegarder donc la maison Bergès qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 92 et aussi avec l'idée d'investir l'ancien bâtiment le bâtiment du laboratoire. Donc les collections du musée sont à ce moment-là assez variées. On a à la fois des objets, on a des objets techniques, de laboratoire, du matériel, des machines industrielles, des œuvres d'art, des objets de la vie quotidienne, des documents écrits, beaucoup de documents photographiques issus de la période de la famille Bergès, mais pas seulement, et des films. Et ces ensembles en fait, se rattachent à différents domaines et à différentes époques. Et en partant de ces collections et également de la spécificité des lieux, et en tenant compte aussi des musées environnants, comme Hydrelec par exemple, et de leur thématique qui est proche de la nôtre, on élabore un nouveau projet qui s'appuie donc sur le personnage d'Aristide Bergès pour parler plus largement de l'évolution de l'industrie régionale des industriels de la fin du 19e siècle et du début du 20e dans la maison Bergès. Et ce projet doit se prolonger dans le laboratoire par la présentation des industries qui se développent depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui grâce à la houille blanche. Donc on acquiert de nouvelles collections liées à ce moment-là, entre autres à l'électricité, à l'électrochimie et puis à des industries plus récentes telles que l'électronique qu'on rattache à ce côté innovant de Bergès. Et finalement, le projet se recentre donc sur la maison Bergès et sur le parc. Le projet dans le laboratoire est abandonné. Et comme on se trouve dans la maison Bergès, on conserve cette idée de s'appuyer sur lui pour traiter de l'histoire industrielle de l'Isère et de l'émergence de l'hydroélectricité. On prend aussi en compte la configuration existante des lieux. Donc le musée s'installe dans 13 salles différentes réparties sur 3 niveaux. C'est ainsi que se compose la maison. Chaque salle aborde une thématique différente liée aux différents aspects de la vie de Bergès que on met en lien plus largement avec ce qui se passe à l'époque. Et on conserve également au cours des travaux le caractère de cette maison marquée par la Belle Époque et qui est également décorée. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire, entre autres pour ses décors intérieurs. Et pas seulement, hein, parce qu'elle est aussi la maison d'Aristide Bergès. Au moment de l'inscription, il y a eu les conduites forcées qui ont été rattachées à cette protection. Et donc dans les salles se mêlent il y a des salles donc qui sont consacrées plutôt à l'art parce que cette maison est décorée et que les Bergès avaient des amis artistes et des salles qui sont plutôt consacrées à l'histoire industrielle et l'art et l'industrie sont étroitement imbriqués dans la présentation. Dans les salles, on a installé en général du matériel de laboratoire ou d'atelier parce que les machines industrielles, c'est beaucoup trop lourd pour les planchers de cette maison. Des bornes et des écrans nous permettent de développer les aspects techniques, en particulier ceux liés aux brevets ou aux installations hydrauliques. Sinon, on se sert plus classiquement de photos, des dessins, des documents de la main d'Aristide Bergès pour présenter son parcours. Qu'on a complété par des schémas plus accessibles aux personnes non initiées, on va dire. Et le matériel industriel, lui, est installé à l'extérieur, donc en raison de son volume et puis du poids conséquent que pourrait pas supporter la maison. J'ai terminé pour ma part. Je vais laisser la parole à Sylvie.
Voilà, donc en quelques mots, je vais vous parler des perspectives de développement de ce musée. Donc Frédéric vous l'a dit, au départ, le projet de la maison a été pensé en deux étapes, en deux espaces avec cette maison autour donc de ce personnage qui est un véritable symbole ici, un symbole donc de l'innovation. Autour donc, ce personnage d'Aristide Bergès, et puis devait se faire donc en complément un projet plus large sur les industries qui sont nées de cette houille blanche. Donc le projet a été arrêté pour des questions financières. Et puis depuis deux ans à peu près, on redémarre. C'est un projet, je ne vous cache pas, qui est un tout petit peu cyclotimique, c'est-à-dire on n'y va plus pour des questions essentiellement budgétaires. Mais aujourd'hui, j'ai eu en fait confirmation, je peux en parler puisque j'ai eu confirmation il y a une dizaine de jours qu'on continuait quand même le projet. Voilà, parce que c'est un projet qui est soutenu donc par la direction générale du Conseil général. Alors, vous avez donc derrière moi une photographie qui vous montre le grand bâtiment du fond avec ses arcs plein cintre. C'est l'ancien bâtiment donc du laboratoire des papeteries. Et c'est dans ce bâtiment-là, dont le Conseil général est également donc propriétaire, qu'il y aurait donc une extension. Alors, on ne faut pas s'y tromper parce qu'effectivement, il a l'air très très grand, mais les 2/3 du bâtiment sont en zone donc à risque. Donc si nous ouvrons au public, nous l'ouvrons uniquement sur une surface de 960 mètres carrés. C'est important parce que c'est rien, 960 mètres carrés, pour un musée. Donc nous allons partir sur une notion plutôt que musée, une notion de centre d'interprétation. Et nous sommes sur une notion de musée des cultures industrielles en Isère. Pourquoi ? Parce que, Colette l'a très bien dit tout à l'heure, en Isère, nous avons quand même le privilège, et il y a plusieurs collègues ici présents dans la salle, d'avoir un réseau de musées sur la thématique notamment industrielle. C'est assez rare en France. Nous avons en Franche-Comté la chaîne des musées donc du travail. Je vous engage à y aller parce que c'est un très beau, des très beaux sites. Et en Isère, on a vraiment un réseau qui fait notre force. Ces musées sont surtout axés sur un lieu, autour d'un lieu, d'une thématique, d'une filière technique. Donc l'idée pour nous, en musée des cultures industrielles, c'est d'ouvrir une problématique beaucoup plus large, d'être davantage comme sur un musée donc, de synthèse et de questionnement donc, sur l'histoire et l'évolution industrielle en Isère. Voilà, donc nous sommes aussi, je l'ai dit, plus sur la notion donc, de centre d'interprétation. Ça veut dire que là, contrario des musées traditionnels, entre guillemets, on va être sur de nouveaux outils multimédia. Peut-être avez-vous entendu parler de Muséomix qui s'est donc déroulé au musée dauphinois la semaine dernière. Vous savez que dans les musées, il y a quand même pas mal de choses qui se passent au niveau donc, de l'élaboration de nouveaux outils de médiation. C'est intéressant parce que nous, ça nous fait travailler nos métiers aussi, c'est-à-dire d'être dans des choses beaucoup plus interactives. On en a parlé tout à l'heure. Donc là, on va le penser d'emblée comme ça. C'est-à-dire que effectivement, s'il y aura des parties, la maison va rester comme un élément symbolique autour de cette figure d'Aristide Bergès, mais le reste donc de la problématique va être beaucoup plus large, y compris très ouverte avec l'industrie d'aujourd'hui. On travaille avec la Chambre de commerce et l'industrie et la EPI. Voilà, et avec des outils, effectivement, salles immersives, etc., salles, donc restitution en 3D, smartphone, iPhone. Donc c'est un parti pris. Et on verra, ça questionne véritablement pour nos musées parce qu'on ne sait pas comment ces outils-là vont évoluer et comment nous, on va pouvoir faire évoluer notre musée par rapport à ça. Mais bon, c'est un bel enjeu et on va essayer donc de mener à terme, en tout cas, le projet. Voilà.